Peut-on acheter sa place à l'université? Enfin, l'inégalité d'accès à l'enseignement supérieur aux États-Unis est aggravée par le fait que les parents les plus riches, au cas où les notes de leurs enfants seraient insuffisantes, peuvent, grâce à leurs contributions financières, obtenir dans certains cas l'admission de leur progéniture dans les meilleures universités. Il s'agit généralement de mécanismes peu transparents, nichés au sein des procédures d'admission et des préférences données aux « legacy students », c'est-à-dire aux candidats dont la famille comprend des anciens élèves de l'université en question. Comme il se doit, les universités états-uniennes concernées expliquent que les effectifs en jeu sont ridiculement faibles, et d'ailleurs tellement minuscules, qu'il est inutile de les rendre publics et de dévoiler au grand jour les algorithmes et les procédures utilisées pour départager les candidats. De fait, il est probable que les effectifs en question soient limités et que ces pratiques opaques jouent un rôle quantitativement moins important que les autres mécanismes en jeu, en particulier la décentralisation du financement public de l'enseignement primaire et secondaire et la prépondérance des droits d'inscription et du rendement des dotations dans le financement du supérieur, pour expliquer l'inégalité d'ensemble du système. La question mérite pourtant une attention particulière pour plusieurs raisons. Tout d'abord, des chercheurs ont démontré que ces pratiques sont peut-être un peu moins marginales que ce que les universités prétendent. On constate en effet que les dons des riches anciens élèves à leurs universités sont anormalement concentrés lors des années où leurs enfants sont en âge de candidater. Par ailleurs, il est bien évident que le manque de transparence est en soi problématique, d'autant plus que ces nouveaux héritiers, issus de la croissance des inégalités états-uniennes des dernières décennies, sont de plus en plus visibles dans le paysage social et peuvent nourrir le ressentiment vis-à-vis des élites. On remarquera qu'une nouvelle expression s'est récemment développée aux États-Unis pour désigner cette nouvelle catégorie d'héritiers disposant de tous les privilèges, les « trust fund babies », en référence à la structure juridique « trust fund » souvent utilisée pour transmettre ces héritages importants. Ce manque de transparence montre que les universités ne sont pas prêtes à assumer publiquement ce qu'elles font et ne peut qu'entretenir de sérieux doutes quant à l'équité globale du système. Il est également frappant de constater que les enseignants-chercheurs en poste dans les universités états-uniennes semblent de plus en plus enclins à justifier ces pratiques et le secret qui les entoure, au nom de l'efficacité de leur nécessaire campagne de levée de fonds auprès des généreux milliardaires qui financent leurs programmes de recherche et de formation. Cette évolution idéologique est intéressante, car elle pose une question plus générale. Jusqu'où exactement doit aller le pouvoir de l'argent? Et quelles sont les institutions et procédures qui permettent de lui mettre des limites? Nous avons déjà rencontré ce type de questionnement, par exemple avec le cas des droits de vote proportionnels à la fortune dans le cas de la Suède des années 1865-1911. En l'occurrence, la comparaison la plus exacte serait plutôt avec les concours impériaux chinois de l'époque Qing, qui autorisaient de larges possibilités d'achat de places pour les enfants des élites propriétaires, ainsi que des quotas pour les enfants de l'ancienne classe guerrière, ce qui a sans nul doute contribuer à l'affaiblissement du régime et à la remise en cause de sa légitimité morale et politique. Enfin, et surtout, le manque flagrant de transparence dans les procédures d'admission pratiquées par les grandes universités états-uniennes est préoccupant, car il pose un défi crucial à tous les pays. Comment définir une justice éducative pour le XXIe siècle? Par exemple, supposons que l'on souhaite utiliser des systèmes de quotas ou de points supplémentaires permettant de favoriser une meilleure représentation des catégories socialement défavorisées, comme cela se pratique par exemple en Inde. Si chaque université garde jalousement le contrôle de son algorithme d'admission, au sein duquel elle donne parfois des points supplémentaires aux enfants les plus fortunés, et non pas aux plus modestes, tout en expliquant que la pratique est très rare et doit rester secrète, alors, cela risque de compliquer sérieusement la délibération et la prise de décision démocratique, surtout s'agissant d'une question aussi délicate et complexe, remettant en cause les positions des enfants des classes populaires, moyennes et supérieures, et sur laquelle il est par nature extrêmement difficile de construire une norme de justice acceptable par le plus grand nombre. On notera toutefois que la puissance publique états-unienne a su parfois imposer à ses universités des normes et des règles dans le passé, d'une façon sensiblement plus ferme qu'elle ne le fait aujourd'hui. Comme toujours, l'histoire montre que rien n'est écrit d'avance. De l'inégalité d'accès à l'éducation en Europe et aux États-Unis. Nous venons d'insister sur les inégalités d'accès à l'éducation particulièrement fortes en vigueur aux États-Unis. Il faut toutefois souligner que ces inégalités sont également très importantes en Europe. Plus généralement, on retrouve dans tous les pays du monde un écart considérable entre les discours officiels théoriques sur l'objectif d'égalité des opportunités, l'idéal méritocratique, etc., et la réalité des inégalités auxquelles font face les différents groupes sociaux en termes d'accès à l'éducation. Aucun pays n'est véritablement en position de donner des leçons à ce sujet. En particulier, il faut souligner que l'entrée dans l'âge de l'enseignement tertiaire a partout constitué un défi structurel pour l'idée même d'égalité éducative. À l'âge de l'enseignement primaire et secondaire, il existait une plateforme égalitaire assez évidente en matière d'éducation. Il fallait conduire la totalité d'une classe d'âge à la fin de l'école primaire, puis à la fin du secondaire, avec pour objectif que chaque enfant accède approximativement aux mêmes savoirs fondamentaux. Avec l'enseignement tertiaire, les choses sont devenues beaucoup plus compliquées. Outre qu'il paraît peu réaliste de conduire la totalité d'une classe d'âge au niveau du doctorat, tout du moins dans un avenir proche, le fait est qu'il existe naturellement une diversité considérable de filières et de voies au niveau de l'enseignement supérieur. Cette diversité reflète pour partie la légitime multiplicité des savoirs et des aspirations individuelles, mais elle tend également à s'ordonner de façon hiérarchique et à conditionner fortement les hiérarchies sociales et professionnelles futures. Autrement dit, l'entrée dans l'âge de la tertiarisation de masse pose un défi politique et idéologique d'une nature nouvelle. Il devient inévitable d'accepter une forme durable d'inégalité éducative, en particulier entre des personnes poursuivant des études supérieures plus ou moins longues. Cela n'empêche évidemment pas de concevoir de nouvelles formes de justice dans la répartition des ressources et dans les règles d'accès aux différentes filières. Mais cela devient une tâche plus complexe que l'affirmation d'un principe d'égalité absolue face aux primaires et aux secondaires. Nous verrons dans la quatrième partie de ce livre que ce nouveau défi éducatif est l'un des principaux facteurs qui ont conduit à l'éclatement de la coalition électorale social-démocrate de l'après-guerre. Dans les années 1950-1970, les divers partis sociaux-démocrates et socialistes européens, de même que le Parti démocrate états-unien, réalisaient leur meilleur score parmi les groupes sociaux les moins diplômés. Au cours des années 1980-2010, cette réalité électorale s'est totalement inversée, et ces mêmes partis font dorénavant leur meilleur score parmi les plus diplômés. Un élément d'explication possible, sur lequel nous reviendrons de façon détaillée, est naturellement lié à l'évolution des politiques mises en place par ces mouvements politiques qui ont progressivement été perçus comme de plus en plus favorables aux gagnants de la compétition socio-éducative. À ce stade, notons simplement que les pays européens, en dépit d'un système de formation globalement plus égalitaire qu'aux États-Unis, ont eux aussi eu bien du mal à faire face aux défis de l'expansion éducative au cours des dernières décennies. En particulier, il est frappant de constater que les dépenses publiques en termes d'éducation, qui avaient connu une progression considérable au cours du XXe siècle, passant d'à peine 1-2% du revenu national en 1870-1910 à 5-6% en 1980-1990, ont cessé de s'accroître depuis les années 1980-1990. Dans tous les pays ouest européens, en Allemagne comme en France, en Suède comme au Royaume-Uni, on constate que l'investissement éducatif a stagné entre 1990 et 2015 aux environs de 5,56% du revenu national. Cette stagnation peut certes s'expliquer par le fait que les dépenses publiques dans leur ensemble ont cessé de progresser au cours de cette période. Dans un contexte marqué par la progression structurelle et quasi inévitable des dépenses de santé et de retraite, il est devenu indispensable aux yeux de certains de stabiliser les dépenses éducatives, voire de les abaisser légèrement en proportion du revenu national, et de faire appel davantage au financement privé et aux droits d'inscription. À l'inverse, il est permis de penser qu'il aurait été possible, et qu'il serait possible à l'avenir, d'envisager une hausse maîtrisée des prélèvements obligatoires permettant un accroissement de l'investissement éducatif, à condition toutefois de pouvoir mettre à contribution d'une façon équitable les différents niveaux de revenus et de patrimoine. Autrement dit, la concurrence fiscale entre pays et l'impossibilité perçue de l'impôt juste peuvent contribuer à expliquer cette stagnation de l'investissement éducatif, ainsi d'ailleurs que la fuite en avant vers la dette. En tout état de cause, il faut souligner à quel point cette stagnation a quelque chose de paradoxal. Au moment même où les pays développés sont entrés dans l'âge de la tertiarisation de masse et où la proportion d'une classe d'âge accédant à l'enseignement supérieur est passée d'à peine 10-20% à plus de 50%, l'investissement éducatif public, exprimé en pourcentage du revenu national, a stagné. La conséquence est qu'une partie de ceux qui avaient cru à la promesse de l'accès croissant aux études supérieures, souvent issus de catégories sociales modestes ou moyennes, se sont retrouvés confrontés au manque de moyens et parfois de débouchés. À ce sujet, il faut insister sur le fait que la gratuité ou quasi-gratuité des études et la prépondérance des financements publics ne suffisent évidemment pas à garantir l'égalité réelle d'accès à l'enseignement supérieur. Les étudiants issus des milieux favorisés sont souvent en meilleure situation pour accéder aux filières les plus prometteuses, à la fois du fait des transmissions familiales et d'un accès préalable à de meilleurs lycées et écoles. Un exemple particulièrement frappant d'inégalité éducative à l'intérieur d'un système supposément public, gratuit et égalitaire est donné par le cas français. En pratique, les ressources publiques investies dans les filières élitistes des classes préparatoires et des grandes écoles, vers lesquelles se dirigent très majoritairement des étudiants socialement favorisés, sont 2 à 3 fois plus élevées par étudiant que celles investies dans les filières universitaires moins élitistes. Cette stratification ancienne du système français est devenue flagrante avec la tertiarisation de masse, d'autant plus que les promesses d'égalisation des moyens investis dans les écoles, collèges et lycées défavorisés n'ont jamais été traduites dans les faits, ce qui a généré de très fortes tensions sociales et politiques. Au-delà du cas français, la question de la justice éducative et de la transparence sur les moyens alloués aux uns et aux autres et sur les procédures d'admission est un enjeu central auquel tous les pays auront à faire face de façon croissante dans l'avenir et sur lequel nous reviendrons largement dans la suite de cette enquête. L'égalité éducative aux origines de la croissance moderne. Précisons enfin que cette stagnation de l'investissement éducatif dans les pays riches depuis les années 1980-1990 peut contribuer à expliquer non seulement la montée des inégalités, mais également le tassement de la croissance. Aux États-Unis, le taux de croissance du revenu national par habitant était de 2,2% par an en moyenne au cours de la période 1950-1990, avant de s'abaisser à 1,1% par an en 1990-2020. Dans le même temps, les inégalités augmentaient et le taux supérieur de l'impôt sur le revenu passait de 72% en moyenne en 1950-1990 à 35% en 1990-2020, voire graphique 11.12 et 11.13. En Europe, on constate également que les années de plus forte croissance correspondent à la période 1950-1990, quand les inégalités étaient les plus faibles et la progressivité fiscale la plus forte. En effet, la croissance du revenu national par habitant est passée de 3,3% par an de 1950 à 1990 à 0,9% par an de 1990 à 2020, alors que le taux marginal supérieur applicable aux revenus les plus élevés passait dans le même temps de 68 à 49%. Voir graphique 11.14 et 11.15. Dans le cas de l'Europe, la croissance exceptionnellement forte de la période 1950-1990 peut être attribuée en partie au rattrapage lié aux guerres mondiales. Cet élément d'explication ne s'applique pas aux États-Unis. La croissance de la période 1910-1950 était plus forte que celle des années 1870-1910, et celle de la période 1950-1990 fut encore plus rapide qu'en 1910-1950, avant que la croissance soit divisée par 2 au cours de la période 1990-2020. Cette réalité historique incontournable est riche d'enseignements pour l'avenir. En particulier, elle permet d'éliminer quelques fausses pistes. Tout d'abord, une forte progressivité fiscale n'est clairement pas un obstacle à une croissance rapide de la productivité, pour peu que les taux d'imposition les plus importants s'appliquent à des niveaux de revenus et de patrimoine suffisamment élevés. Si des taux d'imposition de l'ordre de 80-90% s'étaient appliqués à toute personne dépassant tout juste de la moyenne, il est tout à fait possible que les effets auraient été différents. Mais à partir du moment où ils s'appliquent uniquement à des niveaux très élevés, typiquement à l'intérieur du centile ou du demi-centile supérieur, les expériences historiques dont nous disposons suggèrent qu'il est tout à fait possible de concilier forte progressivité, faible inégalité et forte croissance. Concrètement, la très forte progressivité fiscale mise en place au XXe siècle a contribué à mettre fin à la concentration extrême de la propriété et des revenus en vigueur au XIXe siècle et au début du XXe. Et cette réduction des inégalités a ouvert la voie, entre 1950 et 1980, à la plus forte période de croissance jamais observée. Au minimum, cela devrait mettre tout le monde d'accord sur le fait que la très forte inégalité d'avant la Première Guerre mondiale n'était en aucune façon nécessaire pour la croissance, ce qui était pourtant le discours dominant d'une bonne partie des élites de l'époque. En principe, tout le monde pourrait également s'accorder sur l'échec de la révolution conservatrice réaganienne des années 1980-1990. La croissance des États-Unis a été divisée par deux, et l'idée selon laquelle elle se serait effondrée encore davantage en l'absence de ces politiques paraît particulièrement peu plausible. Ensuite et surtout, le rôle historique joué par l'avance éducative états-unienne au XIXe siècle et pendant la majeure partie du XXe siècle, tout comme la comparaison des trajectoires éducatives et économiques des différents pays, montre l'importance cruciale pour le développement d'un investissement égalitaire dans la formation et l'éducation. Si les États-Unis étaient plus productifs et se développaient plus rapidement que l'Europe au XIXe siècle et au début du XXe, ce n'est pas parce que les droits de propriété y étaient mieux protégés ou que la fiscalité y était plus faible. Les impôts étaient très faibles partout et nulle part les droits de propriété n'étaient mieux protégés qu'en France, au Royaume-Uni et en Europe. Le point central est que les États-Unis avaient alors plus d'un demi-siècle d'avance sur l'Europe en termes de scolarisation primaire puis secondaire universelle. Cette avance s'est tarie à la fin du XXe siècle et avec elle l'écart de productivité. À un niveau plus général, la période 1950-1990 se caractérise par un investissement éducatif exceptionnellement élevé dans l'ensemble des pays riches, beaucoup plus élevé qu'au cours des périodes précédentes, ce qui peut contribuer à expliquer le niveau inhabituellement haut de la croissance. À l'inverse, la stagnation de l'investissement éducatif de la période 1990-2020, alors même que des effectifs de plus en plus nombreux se dirigeaient vers l'enseignement supérieur, est cohérente avec le tassement du rythme de progression de la productivité. Pour résumer, l'égalité et l'éducation paraissent à la lumière de l'histoire des deux derniers siècles des facteurs de développement beaucoup plus porteurs que la sacralisation de l'inégalité, de la propriété et de la stabilité. Plus généralement, l'analyse historique du développement illustre le risque récurrent de trappe inégalitaire auquel se sont trouvées confrontées de nombreuses sociétés dans l'histoire. Le discours porté par les élites tend à survaloriser l'objectif de stabilité, et en particulier de perpétuation des droits de propriété acquis dans le passé, alors que le développement exige souvent la redéfinition des relations de propriété et des opportunités au bénéfice de nouveaux groupes sociaux. Le refus des élites britanniques et françaises de redistribuer les richesses et d'investir dans la formation et dans l'état social se prolonge jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ce refus s'appuyait sur des constructions idéologiques sophistiquées, de même qu'aux États-Unis en ce début de XXIe siècle. L'histoire montre que le changement ne peut venir que de la rencontre entre des luttes sociales et politiques et de profonds renouvellements idéologiques. La social-démocratie et l'impôt juste, une rencontre incomplète. Venons-en maintenant à la question de l'impôt juste, ce qui nous mènera aussi à celle du dépassement de l'État-nation. Nous avons vu les difficultés rencontrées par les sociétés social-démocrates pour redéfinir des normes de propriété juste et d'éducation juste, en particulier à partir des années 1980-1990, à mesure que l'agenda à base de nationalisation perdait de son attrait et que l'on rentrait dans l'âge de la tertiarisation éducative. ces limitations politico-idéologiques concernent également la réflexion insuffisante autour de l'impôt. Les partis sociaux-démocrates, socialistes, travaillistes et démocrates de diverses orientations ont eu tendance à négliger la doctrine fiscale et la question de l'impôt juste. Le développement spectaculaire de l'impôt progressif sur le revenu et l'héritage au cours des années 1914-1945 s'est généralement fait dans l'urgence, sans véritable appropriation intellectuelle et politique, ce qui explique en partie la fragilité de ces constructions institutionnelles et leur remise en cause à partir des années 1980. De façon générale, le mouvement socialiste s'est construit à partir de la question du régime de propriété, avec en ligne de mire l'objectif des nationalisations. Or, cette focalisation sur la propriété étatique des entreprises, dont nous avons vu qu'elle était encore très forte jusqu'aux années 1980, au sein du socialisme français ou du travaillisme britannique, a eu tendance à bloquer la réflexion autour de la fiscalité autant que celle autour de la cogestion ou de l'autogestion. Pour résumer, la foi dans la centralisation étatique comme solution unique au dépassement du capitalisme a parfois conduit à ne pas prendre suffisamment au sérieux la question de l'impôt, de ses taux et des assiettes, tout comme la question du partage du pouvoir et de la répartition des droits de vote au sein des entreprises. Parmi les insuffisances de la réflexion social-démocrate sur les questions de fiscalité, deux points méritent une mention particulière. Tout d'abord, les mouvements sociaux-démocrates, socialistes et travaillistes n'ont pas su développer les coopérations internationales nécessaires pour préserver et approfondir l'impôt progressif, quand ils n'ont pas eux-mêmes organisé les conditions d'une concurrence fiscale dévastatrice pour l'idée même de justice fiscale. Ensuite, la réflexion autour de l'impôt juste n'a pas suffisamment intégré la question de l'impôt progressif sur la propriété, pourtant centrale pour toute tentative ambitieuse de dépassement du capitalisme privé, notamment au travers du financement d'une dotation universelle en capital et d'une plus grande circulation de la propriété. Comme nous le verrons plus loin, la notion d'impôt juste doit reposer sur un équilibre entre trois formes légitimes et complémentaires d'impôt progressif, l'impôt progressif sur le revenu, l'impôt progressif sur les successions et l'impôt progressif annuel sur la propriété.